Monsieur, allô, allô.
Oui, bonjour. Ah,
bonjour monsieur le rabbin, ravi de vous retrouver. On avait un petit problème de connexion, mais voilà, tout va bien maintenant. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis première question, je vais dire rituelle dans cette matinale. Comment allez-vous?
Ben ça va très bien, voilà, nous sommes en pleine préparation de la prochaine solennité qui est Yom Kippour.
Eh bien oui, Yom Kippour, comme chacun le sait, c'est à partir de ce soir avec Kol Nidre, bien sûr, et puis demain, le jour du Grand Pardon. Alors il nous a semblé intéressant de vous contacter, de vous donner la parole aussi, puisque c'est vrai que, bien en général, on s'est rendu compte que la communauté séfarade était très peu à l'antenne. Alors justement, une première question, si vous en avez une idée, bien sûr, globale. La communauté séfarade à Bruxelles, ça représente, vous avez une fourchette de nombre de personnes à nous donner, plus ou moins?
Ah, il doit avoir au moins, officiel, je pense qu'il doit avoir au moins 400-500 familles.
Ah ben voilà, c'est déjà ça, puisqu'on sait qu'à la différence de Paris, où la majorité, je pense, de la communauté séfarade, à Bruxelles et en Belgique, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt ashkénaze. Et justement, quand on fait la différence et qu'on parle de séfarade et d'ashkénaze, il m'a semblé intéressant ce matin d'aller prendre un axe différent, je dirais, de la fête de Yom Kippour, et de parler des rites inhérents à cette fête. Traditionnellement dite par les citoyens, la fête la plus importante du calendrier hébraïque. Je sais que ce n'est pas ce que pensent les religieux. Je pense que pour eux c'est Shabbat, la fête la plus importante. Vous êtes là peut-être pour me le confirmer ou le démentir. Est-ce que vous sentez des différences? Est-ce que vous connaissez les principales différences de rites entre les Ashkénazes et les Séfarades pour la fête de Kippour?
Bah déjà une différence notoire, c'est déjà les mélodies dans un premier temps et également la prononciation.
D'accord.
Et donc la mélodie est complètement différente sous tous ses angles et la prononciation, bon vous savez bien que nous on prononce plutôt l'israélienne, on dirait aujourd'hui, alors que dans le rite ashkénaze on prononce comme les pays de l'Europe de l'Est ou de l'Occident.
En fait, est-ce qu'on pourrait dire, en faisant un raccourci, que je dirais que la prononciation est d'une part influencée par le yiddish et de l'autre part par le ladino, ou bien...
Le ladino et le judéo-arabe. Tout dépend en fait où se trouvaient les juifs. Évidemment, les juifs ont souvent pris les coutumes... local.
Oui.
Donc effectivement, et même le yiddish, il y a différents yiddish. Il n'y a pas un yiddish unique. Il y a différentes selon les régions également.
Bien. Est-ce que vous constatez, vous, parce que là on parle de différences, je vais dire la forme, mais sur le fond, est-ce qu'il y a des rites inhérents?
Il y a peut-être des différences et les moments les plus forts. Dans le rite ashkénaze, a priori, les temps les plus forts où on voit le plus grand nombre de fidèles, c'est très souvent au moment de Kol Nidre.
Bien sûr.
Et également au moment du Iskor. Le Kol Nidre, c'est au moment où on va absoudre les vœux. Ça ne veut pas dire qu'on va les délier complètement. On parle des vœux qu'on voulait s'engager, qu'on n'a pas pu faire pour des raisons, on va dire, difficiles. Oui. On aurait bien voulu les faire, mais c'était difficile de les faire, donc ça ne veut pas dire qu'on va délier tous les vœux, hein. C'est bien, il faut être clair sur ça. C'est pas parce que ce serait trop facile. Vous imaginez, je fais un vœu, et j'arrive pas à le faire, je le délie facilement. On parle surtout pas de ça, hein, déjà. On parle de choses qui vraiment ont fait qu'on a été soit malade, il y a eu des circonstances dans la vie qui fait qu'on n'a pas pu, honorer notre vœu.
Mais quand vous dites, monsieur le rabbin, que Kol Nidre, c'est un des moments les plus forts, du rite ashkénaze, ça sous-entend que ce n'est pas le moment le plus fort pour le rite séfarade?
Si, mais il n'y a pas la même... pour nous aussi, on doit être présent, mais dans le rite séfarade, toutes les prières sont importantes.
D'accord.
Il y a des moments forts, mais j'ai l'impression que dans le rite ashkénaze, ce qui ressort, c'est la prière du Iskor, la prière qu'on fait pour nos disparus, Et d'ailleurs, vous voyez qu'à ce moment-là, il y a beaucoup de juifs qui viennent et qui défilent à la synagogue.
Bien sûr, il y en a beaucoup qui effectivement ne viennent que rendre hommage à leurs disparus.
À ce moment-là, donc, ce qui montre bien l'importance ou le moment fort de ces prières.
Mais c'est le moment fort, mais peut-être aussi l'importance qu'ont leurs ancêtres ou leurs parents, bien sûr, puisqu'on sait que ne participent, en tout cas dans le rite ashkénaze, à cette prière que les personnes qui ont perdu un parent. Est-ce que chez les séfarades, les personnes peuvent rester, ou bien c'est pareil, il n'y a que les personnes qui ont perdu un parent qui assistent à cette prière?
Alors, dans le rite séfarade, il n'y a pas de iskor proprement dit. En fait, c'est des gens qui vont monter la Torah, qui à ce moment-là vont rappeler leur disparu. Donc, du coup, on est tous présents.
D'accord. Ok. Donc il n'y a pas.
On ne fait pas sortir les enfants ou les personnes qui sont encore qui ne sont pas orphelins d'un des deux parents.
D'accord. Donc tout le monde peut assister en clair à la prière de iskor.
Oui,
c'est bien
oui,
ça.
Exactement. Il n'y a pas de cérémonie proprement dite, c'est ce que je voulais vous dire. Il n'y a pas de temps consacré. C'est les personnes qui vont monter à la Torah qui, à ce moment-là, veut rappeler les personnes disparues de sa famille.
Donc, d'une certaine manière, ce que vous nous dites, puisque la Torah, qu'on soit ashkénaze ou séfarade, la Torah, c'est la même pour tous les juifs du monde, bien évidemment. Le fait que chez les ashkénazes, les gens sortent et laissent à l'intérieur de la synagogue que les personnes qui veulent honorer la mémoire d'un être cher disparu, et que, vous venez de le dire, dans le rite séfarade, ce n'est pas comme ça que ça se passe, ça devient une interprétation de la Torah, ou c'est une coutume qui vient ou qui s'est instaurée au fil du temps chez les Ashkénazes?
Certainement, c'est quelque chose qui a dû. Vous savez que le rituel, on va dire qu'il s'est rempli avec le temps. On a par exemple dans le rite séfarade, toutes les prières ou tous les chants sont pris à partir du Moyen Âge. C'est Rabbi Yehuda Lévi, c'est Ibn Ezra. Qui font que nos cérémonies se sont agrandies et qu'elles prennent tout. Et en fait, on peut prier toute la journée, puisqu'on a rajouté, des prières tellement fortes. Et même dans le rite ashkénaze, il y a la prière de Oumane Tokef, du rabbin de Mayence, qui est aussi important, un moment très important qu'on lit à Rosh Hashanah. Donc, vous voyez qu'il y a eu des ajouts par rapport à l'histoire que les Juifs ont connue, selon les pays dans lesquels ils ont grandi et évolué.
Bien, est-ce que, comment dirais-je, finalement, comme je le disais, comme vous me l'avez dit, puisqu'on s'est parlé déjà au préalable, comme ça nos auditeurs connaissent le secret des coulisses, on s'est déjà entretenu ensemble, avec grand plaisir d'ailleurs, vous disiez, finalement, les prières restent les mêmes, les cinq grandes prières restent les mêmes, mais j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a des différences d'horaire, ou bien Kippour commence et finit pour tous les juifs du monde, selon, bien sûr, dans leur fuseau horaire respectif, à la même heure et aux mêmes heures, ou bien il y a des différences dans les différents rites?
Non, il n'y a aucune différence. Comme vous disiez, en fait, il y a vraiment une marque d'unité en dehors des mélodies, en dehors de la prononciation, et de quelques différences à l'intérieur du rite, c'est plutôt du rite que le texte. Il y a cette petite différence, et donc il n'y a aucune différence. On prie tous les mêmes prières. Les prières sont en commun, mais c'est ça peut-être qui fait la force du judaïsme. Il y a aussi quelque chose de très beau aussi dans le rite ashkénaze, c'est la prière du Avinu Malkenu.
Bien sûr, ça c'est Kol Nidre, bien sûr. Ça c'est Kol Nidre.
C'est un moment aussi, moi je trouve que dans le rite ashkénaze, il y a ce moment-là qui est prenant, qui est chanté lorsque les chazans qui chantent, le chantre, qui chante avec les autres, avec le chœur. Je trouve que c'est un moment vraiment prégnant. J'ai l'occasion, parce que comme vous savez, chaque année nous prions pas à la synagogue séfarade, puisqu'on a dû se délocaliser depuis quelque temps. On s'est retrouvé à l'avenue Churchill, qui est devenu beaucoup plus petit. Donc du coup, à Kippour, nous sommes juste derrière la Régence, au palais d'Egmont. Et donc j'ai l'occasion, pendant la pause, d'aller rencontrer mes collègues, le grand Rabbin Guigui et le Chazan Müller. Et c'est l'occasion de les écouter, et je vois que c'est toujours aussi prégnant d'écouter le Rabbin Müller, le Chazan Müller, et d'écouter ces chœurs-là. Bien. Un moment aussi très émouvant.
Et une toute dernière question, parce que le temps a filé, il est déjà à l'heure de nous séparer. Mais finalement, à vous écouter, j'ai envie de dire, les prières sont les mêmes, la Torah forcément est la même. Et donc, qu'est-ce qui fait finalement que les gens restent entre eux, qu'il y ait des synagogues séfarades, des synagogues ashkénazes, et que finalement, pourquoi est-ce que... Enfin, vous allez me dire que tout le monde est bienvenu partout, mais comment se fait-il que les gens, naturellement, ne vont pas une fois dans une synagogue séfarade quand ils sont ashkénazes, et inversement?
Je pense que déjà il y a l'histoire, c'est de se retrouver dans le même banc que le père ou le grand-père.
Ok, bien sûr, c'est familial alors, oui.
De se retrouver dans l'endroit.
Tout à fait.
Donc je pense déjà ça, c'est assez très marquant, c'est le fait de se retrouver vraiment à l'endroit, et très souvent les gens veulent s'asseoir à la place du père ou du grand-père qui ne sont plus de ce monde-ci, et ils tiennent à acheter leur place pour être à la place d'un parent.
D'accord.
ou d'une mère ou d'une grand-mère. Je pense que c'est ça déjà aussi qui fait que les gens restent aussi restent fidèles à leur synagogue. Et je pense aussi écouter aussi les mélodies. Vous savez, il y a des mélodies qui nous ont bercés lorsqu'on était petits, comme la Vino Malkenu que je vous ai dit tout à l'heure, ou le Colindré. C'est des airs qui nous bercent. Déjà, on fredonne dans notre tête ces airs-là avant même la fête. Donc, je pense qu'on veut retrouver un petit peu ces
valeurs-là,
ces petits parfums.
C'est dans notre inconscient collectif, en fait. Je vous remercie infiniment, monsieur le rabbin Yoni Krief. Je rappelle que vous êtes rabbin de la communauté séfarade de Bruxelles. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de vous réentendre et de vous réinviter encore incessamment sous peu bientôt. Je vous souhaite Shana Tova.
Je prends l'invitation.
Eh bien, je
prends l'invitation.
Vous serez chez vous, chez nous.
Gmar Chatima Tova.
Merci beaucoup.
Et à bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Judaïka. Eh bien voilà, c'était intéressant.